La Nouvelle-Calédonie et Mayotte sont les urgences, selon le Premier ministre et la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, présentait ses vœux rue Oudinot ce matin. Déclaration à suivre. L'USOING s'apprête à descendre dans la rue. Le syndicat veut alerter les élus sur l'urgence sociale. Mobilisation prévue mardi devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Actualité internationale et Donald Trump qui continue de mettre la pression sur le régime des Mollahs. Le temps est compté avant une attaque américaine si Téhéran se refusait à un accord sur le nucléaire. Le régime iranien rétorque qu'il a le doigt sur la gâchette. La colère mais aussi le ras-le-bol des policiers. Ils appellent à des mobilisations citoyennes de soutien samedi prochain dans 24 villes de métropole. On parle notamment de l'insécurité concernant les agents des forces de l'ordre. Le football est du suspense à tous les étages pour la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le PSG visera une qualification directe en 8e de finale ce matin face à Newcastle. Marseille et Monaco n'ont plus leur destin en main, respectivement contre Bruges et la Juventus de Turin. La météo en Nouvelle-Calédonie, un air plus chaud et plus humide sur le sud, apporté par une dépression qui s'évacue aujourd'hui. Cet après-midi, les maximales seront plus élevées sur l'est, jusqu'à 34 degrés sur le sud-est. Ailleurs, elles varieront entre 29 et 32 degrés en général.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité calédonienne à Paris.
Oui, je le disais donc, Naïma Moutchou a présenté ses vœux aux Outre-mer pour l'année 2026. À 4h30 ce matin, la ministre des Outre-mer a pris la parole à Paris, au siège de son ministère, rue Oudinot, et elle a évidemment évoqué la situation du territoire. Naïma Moutchou a repris l'expression du Premier ministre Sébastien Lecornu quand il évoque la Nouvelle-Calédonie. C'est avec Mayotte l'une des urgences du gouvernement. Elle avait d'ailleurs choisi la Nouvelle-Calédonie, on s'en souvient, pour son premier déplacement en tant que ministre des Outre-mer.
Quand je suis arrivée au ministère, j'ai entendu beaucoup de choses. À Paris, certains expliquaient très tranquillement que ce dossier était ingérable, que c'était l'échec assuré, que c'était trop tard, que c'était déjà perdu. Il y a ceux qui ont commenté de près comme de loin, qui ont distribué les mauvais points, puis il y a ceux qui ont travaillé. Je suis allée sur le terrain très vite. Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas faire de politique à distance. On ne peut pas se contenter de constater l'état des fractures, il faut les affronter. La réalité, je l'ai vue. Un territoire épuisé, des tensions profondes, une confiance qui est abîmée, mais, l'envie évidemment des Calédoniens de s'en sortir. Et dans ce contexte, oui, ramener tout le monde à la table des discussions était difficile, mais c'était indispensable. C'est ce que je me suis employée à faire en renouant le dialogue avec tout le monde, en étant transparente, avec tout le monde, en dépit des désaccords. J'ai retissé, je crois, le lien de confiance.
Naïma Moutchou est ensuite revenue sur la séquence initiée par le président de la République le 16 janvier dernier, au cours de laquelle le chef de l'État avait invité les formations politiques calédoniennes à l'Élysée afin d'apporter des éclaircissements à l'accord de Bougival signé le 12 juillet 2025.
Nous avons travaillé sur tous les sujets, le fond, les mots, le calendrier, l'avenir, pendant 4 jours, sans tabou. Et à la fin, nous avons obtenu ce que beaucoup disaient impossible, 2 textes qui permettent de donner toute sa portée à ce moment politique. L'accord Élysée-Oudinot sur le volet institutionnel et un protocole financier qui détaille une partie du grand pacte de refondation économique voulu par le Premier ministre. Je remercie évidemment tous ceux qui ont contribué à cela. J'en profite pour saluer, s'ils sont présents, Olivier Jacob et Laurent Lenoble.
Des propos recueillis rue Oudinot par notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Radio Rythme Bleu, 6h34.
À l'actualité sociale, travailler sur une relance économique à moyen et long terme, c'est bien, mais il ne faut pas oublier l'urgence sociale, car elle est toujours une réalité. C'est en tout cas ce qu'estime l'USOING, Charlotte Coulson.
La réalité, c'est que de nombreux Calédoniens souffrent et n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, soulignent les responsables de l'USOING, qui affirment que l'urgence sociale n'est pas derrière nous. Et l'USOING estime que sur cette urgence, les choses ne vont pas assez vite. C'est pour faire valoir cette position, et ce sont les mots utilisés par les responsables de l'USOING, mettre les politiques face à leurs responsabilités, que l'USOING organise le 3 février prochain une mobilisation devant le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, comme l'a expliqué Alexis Falematagia, secrétaire général adjoint de l'USOING.
La mobilisation du 3 février, tout d'abord, c'est un ras-le-bol de participer à beaucoup de réunions, des réunions et des réunions, et on a besoin de répondre à l'urgence sociale. On ne veut pas des promesses, mais des actes concrets pour la population qui souffre aujourd'hui. Il ne faut pas mélanger le court terme, le moyen terme et le long terme. On a l'impression de tout mélanger. Aujourd'hui, il faut qu'on parle du très court terme. Quand on entend dire que l'urgence sociale est derrière nous, pour nous, l'USOING, c'est inacceptable. Parce que c'est faux. Ça ne représente pas la réalité du terrain. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est de se focaliser sur le court terme. Bien sûr que ça va prendre du temps sur les stratégies moyen-long terme. Et ça, l'U5 sera très vigilant à se faire entendre sur l'urgence sociale et économique en Nouvelle-Calédonie.
L'U5 participe à toutes les réunions liées à la relance et l'attractivité économique. Elle a contribué aux travaux de la mission interministérielle dirigée par Claire Durieux, mais elle estime que la voix des partenaires sociaux n'est pas assez prise en compte. Elle souhaite donc la mise en place d'un nouveau contrat social.
Ce qu'on veut, c'est un nouveau contrat social. Aujourd'hui, on voit les défaillances sur les différentes instances où nous sommes représentés. Nous avons besoin de parler haut et fort par rapport à l'argent massif qui va être donné par l'État, comment ce fléchage va être fait au plus juste. Et c'est pour ça qu'on demande un contrôle social pour pouvoir justement s'assurer que les montants financiers vont bien à l'équilibre et travaillent pour cet argent travaille pour le peuple, quoi.
L'U5 réclame par exemple un fléchage précis des aides de l'État vers les régimes sociaux, les politiques d'emploi et les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Il souhaite également la création d'un dispositif de contrôle social pour vérifier que les politiques publiques sont transparentes et équitables. Enfin, l'U5 s'oppose au prélèvement supplémentaire dans les 2% du FSH voté par les élus du Congrès et qui aurait été décidé sans l'accord des partenaires sociaux. C'est pour toutes ces raisons que l'U5 organise la mobilisation du 3 février prochain devant le Congrès et parle déjà, si ces revendications n'étaient pas entendues, d'organiser d'autres actions syndicales.
Et notez que nous reparlerons de cette urgence sociale ce matin. Jean-Marc Burette, le secrétaire général de l'U5, sera en effet notre invité du matin à 7h30. De son côté, la Fédé adresse une lettre ouverte aux élus. L'année s'ouvre sur le constat amer d'un patrimoine public dilapidé, sans pour autant permettre de répondre aux besoins essentiels de la population, qu'il s'agisse de la santé, de l'éducation, des transports, du logement ou encore de l'énergie, écrit le bureau de la Fédé. Il met en cause l'action des élus et de l'État et parle d'avancées sociales non financées ou encore de réformes fiscales sabotées. La responsabilité de cette situation incombe en grande partie à une classe politique locale trop sensible aux pressions des lobbies, écrit la Fédé dans cette lettre ouverte aux élus. L'actualité institutionnelle à présent est les élus de la province Nord qui ont débattu des orientations budgétaires de la collectivité pour 2026. Hier, cette année encore, l'exécutif tente d'identifier des trajectoires budgétaires dans un contexte très incertain, Charlotte.
Une séance qui débutait comme d'habitude par une rétrospective de l'année passée. En 2025, la province Nord a dû réduire ses dépenses. Des économies ont notamment été faites sur la masse salariale, sur la culture ou encore l'environnement pour une réduction totale d'1,690 milliard par rapport à 2024. A l'inverse, l'exécutif a choisi de prioriser les aides à la population, l'aide médicale, les bourses scolaires notamment. Pour 2026, les élus ont relevé l'incertitude quant aux recettes fiscales dont pourrait disposer la collectivité pour construire un budget. Les dernières publications du gouvernement annonçaient une assiette de répartition de 101 milliards, mais cette somme n'est pas garantie. La province Nord se base pour l'instant sur une assiette donc de 73,5 milliards. Elle identifie tout de même plusieurs axes prioritaires que nous détaille Patricia Goa, élue de la majorité unis à la province Nord.
Le contexte, il est dégradé. Donc ça, on ne l'apprend pas. Ce qui est dit aujourd'hui, c'est de dire qu'on est en responsabilité. C'est qu'il est nécessaire, plus qu'hier aujourd'hui, dans la gouvernance, de donner des priorités. Donc en termes de secteur priorisé, c'est le service au public, à la population. C'est aussi tout ce qui est lié au social. C'est aussi l'enseignement. Ce qu'on donne à nos différents enseignements, c'est nos bourses, c'est la formation professionnelle. Mais ce sont tous les efforts, et notamment tout ce qui est hors plan, tous les efforts dans la structuration que l'on doit faire avec les outils à un moment donné qu'on a mis en place.
Et du côté de l'opposition, tout le monde s'accorde à dire que ces propositions sont responsables. Pour Wilfried Weiss, chef du groupe Agissons pour le Nord, il faut réfléchir à des initiatives pour augmenter les recettes fiscales de la Nouvelle-Calédonie.
On voit qu'aujourd'hui, on équilibre les comptes avec le fonds de roulement, on équilibre aussi avec des emprunts, etc. Donc il faut absolument que la situation budgétaire de la Nouvelle-Calédonie se rétablisse. Et pour se rétablir, il faut absolument que le climat politique revienne à la normale et puis que l'économie redémarre. Si l'économie redémarre, on pourra avoir des nouvelles recettes fiscales. Et ces recettes fiscales, elles vont aussi bien profiter à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces et aux communes. On est en attente d'une aide massive de l'État. On voit très bien que dans la mesure où la politique nationale est au plus mal aussi, ça n'arrange pas les choses pour nous.
Même constat pour le groupe UCFLNKS qui soutient ces orientations budgétaires. Henriette Mahé, chef de groupe, maintient que la fiscalité doit demeurer une compétence du gouvernement et non des provinces.
Aujourd'hui, on est dans le maintien du minimum et notamment par rapport aux aides sociales. Pour l'instant, on arrive à le maintenir. Ce qui nous inquiète fortement, c'est on n'a pas de visibilité au niveau de la Nouvelle-Calédonie, comme ça a été dit, et que pour l'instant, on se base sur la compensation de l'État qui va être formalisée, on espère, puisque ça aura une incidence sur toutes les collectivités. Et il faut le rappeler, notre budget est composé en grande partie de la fiscalité qui est levée par la Nouvelle-Calédonie. Et notre inquiétude, c'est qu'il faut que ce principe-là reste.
Le budget primitif de la province Nord, sera examiné lors de la prochaine assemblée qui se tiendra le 27 février.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Avant de refermer cette page, voici notre question du jour. Dans cette période de crise économique et sociale, est-ce selon vous le bon moment pour les syndicats de mettre la pression sur les élus? Si vous pensez que c'est le bon moment, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Voici maintenant la réponse à la question d'hier. 62% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que la réforme constitutionnelle qui sera examinée le 24 février par le Sénat ira jusqu'au bout et qu'elle sera adoptée par le Congrès de Versailles. Ils sont 38% à penser que ce ne sera pas le cas. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Il est 6h passé de 43 minutes. Merci d'être avec nous pour ce journal. On va marquer une première pause publicitaire avant de voir toute l'actualité nationale et internationale et notamment à l'étranger. Eh bien, Donald Trump continue de mettre la pression sur le régime des mollahs.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Avis aux gourmands à quatre pattes. Friskies, Supercoat, One, Félix. Leurs marques préférées sont à prix craquant jusqu'au 15 février chez Cheval Distribution. Dépêchez-vous, c'est le moment de les régaler. Retrouvez la promotion dans vos trois magasins, Bellevue, Apogotier et Michel-Ange.
La ville de Nouméa recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
Si vous souhaitez travailler au centre de traitement de l'alerte situé à Normandie, vous avez jusqu'au 16 janvier pour postuler.
Et si vous préférez exercer dans un des deux centres de secours, vous pouvez candidater jusqu'au 6 février. Toutes les infos, conditions, phases de recrutement et dossiers de candidature sont disponibles sur le site de la ville www.nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 24 38 18.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Je le disais donc, Donald Trump, le président des États-Unis, met la pression sur le régime des mollahs. Il annonce sur sa plateforme en ligne que le temps est compté avant une attaque américaine si Téhéran se refusait à un accord sur le nucléaire. Le président des États-Unis a aussi indiqué qu'une deuxième armada américaine se dirigeait vers les côtes iraniennes. William Molinier pour Europe 1.
Une deuxième flotte serait actuellement en route. Donald Trump n'a pas donné de détails concernant cette armada dont on a, en source ouverte, aucune trace sur les outils de suivi de l'activité marine. Un premier groupe aéronaval est bien arrivé dans le Golfe Persique avec une force de frappe impressionnante puisqu'on y retrouve le géant des mers, l'USS Abraham Lincoln. Le porte-avions dispose d'une escadre aérienne de la marine américaine avec des chasseurs, des avions de guerre électroniques, des hélicoptères et tout autour de lui des destroyers chargés de missiles Tomahawk. En cas de riposte, les États-Unis pourraient se couvrir grâce aux chasseurs F-15 déployés sur leur base dans la région. Enfin, ils ont aussi déployé des boucliers antimissiles Patriot pour prévenir toute contre-offensive balistique. De son côté, la diplomatie iranienne certifie ce soir que l'Iran répondrait, je cite, « comme jamais en cas d'attaque américaine ».
Et en attendant, demain à Bruxelles se tiendra une réunion des ministres des Affaires étrangères des 27. Ils doivent, petit 1, acter des sanctions européennes contre les hauts dignitaires iraniens. Petit 2, répondre à cette question. Faut-il, oui ou non, inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste européenne des organisations terroristes? Jusqu'ici, la France entretenait le flou, mais la position vient d'être tranchée. Les explications de Jacques Seret pour Europe 1.
Oui, la position française vient d'être clarifiée selon une source de l'Élysée à Europe. Europe 1, la France soutient désormais l'inscription des gardiens de la révolution iranienne sur la liste européenne des organisations terroristes. Jusqu'ici, Paris avançait avec prudence. Désormais, la ligne est assumée. Concrètement, demain à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères doivent d'abord valider un nouveau paquet de sanctions européennes, interdiction de visa et gel d'avoir, visant notamment plusieurs hauts responsables iraniens, dont des cadres des gardiens de la révolution. Mais la discussion ira plus loin. L'Italie et l'Allemagne sont suivies par la France pour franchir ce cap politique et inscrire sur la liste des organisations terroristes de l'Union le corps des gardiens de la Révolution, une décision qui serait lourde de conséquences, mais elle nécessite l'unanimité des 27 États membres. Téhéran a déjà mis en garde contre des conséquences destructrices si cela devait se confirmer demain.
Des parlementaires auraient d'ailleurs écrit à Emmanuel Macron pour soutenir cette démarche. En bref, le Sénat dit non et rejette la loi sur l'aide à mourir. Les deux textes soumis au vote portaient sur l'offre de soins palliatifs et le suicide assisté. La Chambre haute refuse donc d'envisager toute forme d'aide à mourir. Le texte reviendra devant les députés le 16 février prochain. Des policiers dans la rue, les syndicats alertent sur les conditions de travail des agents des forces de l'ordre. L'insécurité se ressent au quotidien, si bien qu'Alliance appelle à des marches citoyennes dans 24 villes samedi prochain. Avant cette mobilisation, le syndicat a tenu à alerter les députés devant l'Assemblée nationale. Le reportage de Charles Bouchin pour Europe 1.
Venez soutenir la police samedi. On manifeste pour la sécurité, s'il vous plaît.
Une trentaine de policiers distribuent des tracts aux députés derrière l'Assemblée nationale, les invitant à soutenir la mobilisation citoyenne le 31 janvier. Olivier Ourcault, secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
Aujourd'hui, les enjeux sécuritaires, tout le monde en parle, mais personne n'agit. Les parlementaires en premier doivent montrer l'exemple. Le peuple en a marre, les policiers en ont marre, tout le monde en a marre. Donc à un moment donné, il faut que chacun se retrousse les manches. Au-delà des paroles, il faut des actes.
Des actes concrets pour améliorer des conditions de travail qui se dégradent, insiste Fabien Van Emmelric, secrétaire général du syndicat.
Les policiers n'ont plus les moyens de travailler, qui travaillent dans des locaux parfois insalubres, en sous-effectif permanent et en face d'eux, une délinquance organisée, de plus en plus riche, avec de plus en plus de moyens pour nuire.
Face à cette montée de la délinquance, Yannick, policier dans les Hauts-de-Seine, regrette que la justice soit trop laxiste.
Un individu qui s'en prend à un policier encourt en moyenne entre 5 et 7 ans. Mais malheureusement, la réalité en est tout autre, puisqu'en moyenne, on constate que c'est uniquement 8 mois.
D'autres opérations d'appel à la manifestation pour soutenir les forces de l'ordre seront organisées jusqu'à samedi.
Charles Bouchin pour Europe 1. Il est 6h48. Vous écoutez RRB, une nouvelle pause publicitaire dans ce journal. Avant de voir la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, on reviendra notamment sur ces faits de délinquance à Koumac.
RRB, 6h08, Nicolas Legrand.
Sauvant Carrelage, c'est le spécialiste des revêtements de sol et murs, intérieurs ou extérieurs, depuis plus de 50 ans. Carrelage, sol souple, pierre naturelle, margelle, dalle. Sauvant Carrelage, 16 rue Fernand Forest, à Ducos. Plus d'infos sur sauvantcarrelage.com ou sur Facebook Sauvant NC.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lonsvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
Optique Magenta Plage, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Retrouvez vos marques préférées au meilleur prix et votre seconde paire offerte toute l'année. Optique Magenta Plage, au centre médical Mediplage.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, on retrouve Nicolas Legrand.
Une agression violente et plusieurs faits de délinquance se sont produits à Koumac ces derniers jours. Lundi matin, je rappelle qu'un homme a été poignardé au ventre alors qu'il tentait de stopper un individu en plein vol à l'étalage. Un peu plus tôt, dans la nuit du 24 janvier, l'entièreté des infrastructures et du matériel du district forestier nord de Koumac a été réduite en cendres. Des actes qui ont indigné le maire de la commune, Wilfried Weiss. Des dispositifs ont été mis en place pour accompagner la jeunesse de Koumac, mais la difficulté, c'est que la délinquance vient souvent d'ailleurs, selon le maire de la commune.
Ces incivilités, on en a eu en 2021, on en a eu en 2022. On a essayé de mettre des structures en place, dans un CLSPD qui fonctionne très bien. Le souci aujourd'hui, c'est qu'on a des actes d'incivilité qui sont liés à des gens qui viennent de l'extérieur. Là, par exemple, c'était un jeune de Paume, mais on a aussi des exactions de gens qui viennent de Calagomène, de Ouégoua, etc. Donc, on est au carrefour du Nord et c'est très, très difficile à gérer ce genre d'incivilité. Parce que même si on met en place des choses, nous, au niveau de la commune, pour nos jeunes, pour essayer de faire de la prévention, on ne peut pas faire de la prévention sur l'ensemble des communes environnantes.
Et rappelons que l'homme de 29 ans ayant asséné le coup de couteau a été interpellé par la gendarmerie et présenté à la justice hier après-midi. Quant aux individus à l'origine des incendies du district forestier nord, ils sont toujours activement recherchés. En bref, la mairie de Ponérioin fermée jusqu'à lundi. Décision de Pierre-Chanel Tutugoro, le maire de la commune, pour protester contre une série d'actes de vandalisme à l'encontre des bâtiments publics notamment. Il condamne fermement ces actes et informe que les autorités compétentes ont été saisies. Il lance également un appel à la population pour faire preuve de responsabilité, de solidarité et de soutien.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h51.
Un régime de taxation simplifié applicable aux envois express à faible valeur. C'est l'objet d'un projet de loi du pays arrêté par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après passage devant le Conseil d'État. L'objectif est d'adapter la réglementation douanière aux évolutions du commerce international et aux besoins des opérateurs locaux. Charlotte Coulson.
C'est une problématique internationale à laquelle n'échappe pas la Nouvelle-Calédonie. Le fret express connaît une forte croissance en raison notamment de l'essor du e-commerce et du développement d'opérateurs de transport internationaux spécialisés dans le fret express. Localement, cela se traduit par une augmentation du volume de fret express à traiter, un changement du flux douanier avec une hausse des petits colis individuels et donc à une pression accrue sur les plateformes logistiques. Le projet de loi du pays propose de réduire les 6600 positions tarifaires existantes en 52 grandes familles de produits. Cette taxation simplifiée pour les envois express permettrait de fluidifier les formalités douanières des petits colis express, d'alléger la charge administrative pour les opérateurs et d'assurer un recouvrement fiscal proportionné tout en améliorant son efficacité.
Dans un tout autre domaine, le gouvernement a procédé à plusieurs nominations dans le cadre de la réorganisation de la DSCGR, la Direction de la Sécurité Civile et de la Gestion des Risques. Thomas Depardon et Alexandre Rossignol sont nommés directeurs adjoints, le premier comme chef de groupement opérationnel et le second comme chef de groupement prospective et développement. En revanche, il est mis fin aux fonctions de Victor Letézer comme directeur adjoint de la DSCGR. Toujours dans l'actualité en bref, un second point de délivrance des permis de chasser ouvrira dès la semaine prochaine. Objectif, renforcer l'accessibilité du service public et de faciliter les démarches des usagers du territoire. Désormais, les permis de chasser pourront être délivrés à l'hôtel de la province Nord. Le point de délivrance historique au district forestier ouest, anciennement Haut et Forêt, reste également ouvert. De même que les autres sites en province Nord, soit Koumac, Iyengen, Point-d'Imier, Canala et Wailou. Une nouvelle rotation a été ajoutée au début du mois de février pour permettre aux écoliers et étudiants des îles Loyauté d'effectuer leur rentrée scolaire. Le jeudi 5 février, le Betticho partira de Nouméa à 7h du matin, puis se rendra à Lifou à midi et atteindra Maré à 15h30, puis retournera à Nouméa à 19h30. Attention, le dépôt de fret se fera la veille du départ, sous réserve de disponibilité et selon le taux de remplissage. Toujours en bref dans l'actualité économique, une baisse des prix pour les carburants le mois prochain. Dès le 1er février, l'essence sera affichée à 152,70 francs le litre contre 158,80 francs au mois de janvier, ce qui représente une baisse de 6,10 francs. Côté gazole, les stations afficheront un prix en baisse de 8,30 francs, le litre passant de 144,40 francs à 136,10 francs dès dimanche. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu, on va marquer une pause publicitaire dans ce journal, la dernière, avant de voir toute l'actualité sportive et on parlera notamment de football sur les pelouses européennes.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Alerte chaleur maximale chez Subaru. L'été fou de Subaru revient. Les prix fondent et les sensations montent. Le Crosstrek, le Forester et l'Outback vous attendent. Robuste, fiable et taillé pour l'aventure avec des offres de folie. Direction Subaru au village automobile à Nouméa au PK4 ou chez NC Motors Kone pour en profiter dès maintenant.
Offre valable jusqu'au 31 janvier 2026 dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions en concession.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Attention, plus que quelques jours avant le tirage au sort du million en bons d'achat sur RRB. N'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Il n'y a pas de liste préétablie. Le ou la gagnante décidera comment dépenser son million. Et puis, il y a toujours 100 000 francs à gagner en bons d'achat. Si vous êtes le 1500e SMS, pile sur le compteur.
Alors n'hésitez plus. Envoyez maintenant RRB au 40-20. Chaque SMS compte pour le tirage du million le vendredi 13 février à 14h. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. Saisissez votre chance, envoyez RRB au 40-20.
Et tonton, on est en janvier, tu peux enfin refaire tes lunettes. Chez Optique Discount, ils testent ta vue gratuitement et sans rendez-vous. Et en plus, t'auras tes progressives en 3 jours max.
Allez, direction Optique Discount.
Optique Discount, toutes vos lunettes en 3 jours.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
Info matin, l'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Du football à la une ce matin, puisque nous suivrons aujourd'hui la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions. 18 matchs seront au menu ce matin. Toutes les rencontres se joueront en simultané à partir de 7h, coup d'envoi dans 5 minutes maintenant. Trois clubs français seront en lice. Le PSG tout d'abord, tenant du titre européen, qui vise le top 8. Mais il faudra s'assurer un résultat positif aujourd'hui contre les Anglais de Newcastle, après le dernier faux pas face au Sporting Portugal, où les Parisiens s'étaient inclinés 2-1. Ce sera donc un moment clé de la saison, selon l'entraîneur du PSG, Luis Enrique.
C'est clair que pour nous, l'objectif, c'est de qualifier dans les huitièmes premières, chercher à gagner les matchs contre une très bonne équipe comme Newcastle. On connaît Newcastle parce qu'on a joué déjà les dernières années et ce sera très difficile. C'est un moment clé de la saison. Notre objectif, c'est de gagner. On est prêt pour affronter ce match.
De leur côté, l'Olympique de Marseille et l'AS Monaco sont condamnés à la victoire pour espérer disputer les play-offs. Marseille ira défier le club de Bruges en Belgique, tandis que les Monégasques recevront la Juventus de Turin. Pour le moment, les Marseillais sont en 19e position et les Monégasques 21e. Parmi les autres affiches à suivre, il y aura notamment un beau duel Benfica-Lisbonne-Real Madrid au menu pour Kylian Mbappé. Le Borussia Dortmund sera opposé à l'Inter Milan. Chelsea croisera le fer avec Naples. Le Bayern Munich ira de son côté défier les Hollandais du PSV Eindhoven. Je rappelle donc que toutes ces rencontres seront à suivre en simultané. D'ici quelques minutes maintenant, coup d'envoi à 7h. Du handball avec le dernier match du tour principal de l'Euro Messieurs et dernier match également pour l'équipe de France, tenante du titre qui faisait face aujourd'hui à la sélection allemande. Deux jours après avoir sombré face à l'Espagne, l'équipe de France a encore pris l'eau contre l'Allemagne. Une défaite 34-38, les Bleus qui quittent la compétition sans atteindre le dernier carré. Du tennis dans le Pacifique avec l'Open d'Australie, on connaît les affiches des demi-finales à Melbourne. Chez les messieurs, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev et le numéro 2 à l'ATP, l'Italien Jannik Sinner, tombeur hier de l'Américain Ben Shelton en 3-7, 6-3, 6-4, 6-4, retrouvera Novak Djokovic qui a bénéficié du forfait d'un autre Italien, Lorenzo Musetti. Le Serbe était pourtant mené 2-7-0 avant que son adversaire ne soit contraint à l'abandon sur blessure à la cuisse droite dans le troisième acte. Et puis chez les dames, le dernier carré verra un duel entre la première joueuse du circuit mondial, la Bélarusse Arina Sabalenka, et l'Ukrainienne Elina Svitolina, tandis que l'Américaine Jessica Pegula sera confrontée à la Kazakh Elena Rybakina, tombeuse surprise hier de la Polonaise Iga Swiatek 7-5, 6-1. J'ajoute que dans le double mixte, la paire française s'est qualifiée pour la finale. Kristina Mladenovic et Manuel Guinard ont disposé de Luisa Stefani et de Marcelo Aravello. Le sport côté calédonien, du rugby à 13 avec la formation calédonienne Pacific 13 qui poursuit son séjour en Nouvelle-Zélande. Nos jeunes représentants se sont inclinés mardi sur le score de 48-4 contre le Northland Pacifica Rugby League. Un score qui peut paraître sévère, mais qui finalement ne reflète pas vraiment l'intensité du match. C'est ce que nous a dit Manu Jalabert, qui est le responsable du Pacific 13.
Les choses sérieuses ont rapidement commencé puisque les entraînements se sont enchaînés et nous avons disputé notre premier match contre une sélection du nord de la Nouvelle-Zélande avec une équipe bien solide en face et nos jeunes calédoniens ont combattu âprement et franchement ils nous ont super étonnés dès le haka où ils avaient préparé une danse qui s'appelle le Faiva Toa. Les deux danses se sont confrontées en même temps, c'était assez impressionnant. Tous les spectateurs qui étaient là avaient des frissons. Et après, évidemment, l'expérience a parlé et l'expérience, c'est surtout la densité physique des adversaires parce que quand même, on voit la différence par rapport à nous. On est un peu léger en musculation, etc. Bon, les Calédoniens n'ont pas à rougir de leur défaite, au contraire. C'était une expérience formidable. C'est loin d'être une victoire, mais en tout cas, c'est une magnifique expérience pour les enfants. Ils vivent à fond leur trip néo-zélandais. On est en plein pays maori et on est accueillis de cette façon. Et franchement, c'est génial pour eux. Et c'est vraiment quelque chose qui va les faire grandir.
Et nos représentants pourront prendre leur revanche demain dans ce séjour d'une semaine avec encore une confrontation prévue face aux joueurs kiwis pour ce Aotearoa Tour, un voyage formateur avant tout pour le futur du rugby à 13 calédonien. En bref, sur le territoire, ce sera la rentrée du cyclisme sur piste ce soir avec dès 17h30 au Vélodrome de Magenta, des épreuves notamment pour les jeunes catégories. Une session qui sera notamment sélective pour un déplacement à venir au championnat australien de la discipline.